La culture, on n'a pas souvent l'occasion, on n'en fait pas assez sans doute, et ça sera en même temps pour nous l'occasion d'annoncer l'émission suivante, qui d'ailleurs va être faite par Jean-Pierre, qui, comme il l'a fait aujourd'hui, participera quand il le pourra, autant qu'il le pourra, mais pas plus, parce qu'il lui faut préparer son émission suivante, qui participe donc aux informations, et qui fera une émission sur la chanson française. Comment on la définit, Jean-Pierre ?
Oui, le titre, ce sera « Texte et chanson ». Je expliciterai un petit peu plus tout ça tout à l'heure.
Tout à l'heure.
En attendant, on va finir par une information.
Alors, ce sera tous les 15 jours, on va bien préciser.
Oui,
là, on va en faire deux de suite.
On ne connaît pas encore très bien le rythme, mais on va le définir.
Mais parce qu'on peut l'annoncer aussi, on aura à partir du premier lundi d'octobre, on aura une émission en théâtre. Complètement théâtre, une équipe qui va faire du théâtre de 20h, qui va parler théâtre de 20h à 21h, une fois un lundi sur deux, à partir donc du premier lundi d'octobre. Donc ça fera une grande soirée théâtrale et même littéraire, puisqu'après on rappelle qu'avec y a une émission qui s'appelle Entre les lignes et qui parle aussi théâtre, littérature, théâtre et musique. C'est un petit peu différent, c'est plus élargi comme thème. Là, ce sera théâtre. Et entre les deux, il y aura donc l'émission sur la chanson française de Jean-Pierre, mais qui va commencer donc par en faire deux déjà ce lundi et lundi prochain. Alors, on voulait parler, puisqu'on évoquait la chanson française de Jean Ferrat, je crois. Tu voulais parler de Jean Ferrat.
Une information presque locale, régionale en tout cas, puisque Ferrat habite et vit en Ardèche. Et il a annoncé qu'il allait sortir quelque peu de son Ardèche pour publier une nouvelle série de chansons. Il y a au moins un album qui est annoncé, et puis une autre série de chansons qui suivra des Aragons. Et on sait que les textes d'Aragon mis en musique par Ferrat, ça...
Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, en direct cette fois. Vous avez dû être un peu surpris par cette entrée, ce début de Canu Info. Eh bien, il faut que je vous explique. C'est un enregistrement du Canu Info du 23 septembre 1991, il y a donc 23 ans et 6 mois. C'était le premier Canu Info dans lequel j'intervenais. Et ce soir, vous écoutez le dernier Canu Info dans lequel j'interviens, puisque à partir de lundi prochain, je n'assurerai plus, Robert non plus. Robert, lui, il a une bonne trentaine d'années, 83, oui, 32 ans, de Canu Info. Pour moi, c'est à peu près 12 à 1300 Canu Info qui sont derrière nous. C'est une très belle aventure, mais il arrive un moment où il faut s'arrêter. Et puis, les nouvelles générations vont bien reprendre le flambeau. Michel, quant à lui, continuera. On ne sait pas encore quand et avec quelle équipe, mais il a l'intention de continuer à vous parler de l'actualité. Donc, vous le retrouverez sur cette antenne. Voilà, eh bien, ceci étant dit, nous allons commencer notre Canu Info, on va dire, comme d'habitude, absolument. Robert, tu as un sujet pour ce soir, par lequel tu souhaites ouvrir.
Non, je suis tellement ému que je n'ai pas de sujet.
Tu n'as pas de sujet. Ah,
Et je vais laisser Michel qui devra
Alors,
poursuivre.
Michel qui va eh reprendre bien, le flambeau.
On va le mettre à l'épreuve.
Doublement.
Lancer le sujet.
Lancer un premier sujet.
Bonsoir à tous, moi aussi je suis très ému de savoir qu'effectivement c'est notre dernier Canu Info ensemble. J'aurais tant aimé moi aussi reprendre un peu flambeau, malheureusement je ne peux pas assurer vraiment cette continuité de ce Canu Info de tous les lundis après-midi. Mais néanmoins, j'ai bien l'intention de continuer donc, dans mes analyses que j'ai eu la chance de développer avec vous. Pour moi, c'est 16 hein, quand même, dernières années.
Oui, ce serait combien d'années pour toi ?
16.
16, eh oui, quand même. Hein.
Quand même. Donc, parlons un peu d'actualité, puisque c'est le sujet. Alors, un peu de Russie, hein, puisque on semblerait qu'on aurait trouvé donc les assassins de Boris Nemtsov du côté de Moscou. Alors, il semblerait, puisque c'est la voix du Kremlin qui nous dit avoir donc retrouvé les coupables, en la personne surtout de Zao Dadaïev, qui serait le principal suspect, donc Et le meurtrier donc de l'opposant Boris Nemtsov, l'opposant à Vladimir Poutine. Alors là aussi, faut peut-être prendre un peu avec des pincettes les informations pour l'instant qui nous sont données. Dadaïev est un Tchétchène, ancien donc des forces spéciales du ministère de l'Intérieur de Ramzan Kadyrov, donc du président de la Tchétchénie, donc au sein de la Fédération de Russie, et il aurait apparemment donc commis ces attentats-là juste parce que Nemtsov avait soutenu donc Charlie en son temps et que les Tchétchènes l'avaient très très mal pris. Bon, on va dire que dans ce type d'information, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été pris vivant, donc il y aura peut-être un jugement, un tribunal, on pourra peut-être le faire parler, lui, ses complices, si c'est vraiment eux, hein, pour l'instant, on peut pas le dire, donc l'histoire aurait pu aussi finir par l'exécution donc des suspects, et on n'en parle plus, et là, effectivement, ça aurait fait jaser dans les colonnes des principaux médias occidentaux, pour l'instant. On voit bien effectivement que ceux-ci sont circonspects, donc ils ne savent pas très bien comment aborder cette information. Donc on verra là aussi, dans le temps, comment tout ça va se développer.
Oui, on a l'impression que les médias occidentaux sont un peu sceptiques, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là en Russie, c'est toujours un Tchétchène qui a fait le coup.
Oui, bien sûr.
Alors on prête corrige.
Bon, en l'occurrence, celui-ci, le paradoxe, c'est qu'il serait membre, effectivement, un ancien membre des forces donc du ministère de l'Intérieur, donc indirectement fidèle aussi à Poutine, hein, puisque c'est Vladimir Poutine qui a mis en place Kadyrov pour contrer donc les indépendantistes islamistes en Tchétchénie. Et c'est cette information-là donc qui est assez paradoxale. Donc Zaour Dadaïev, qui a d'ailleurs le soutien de son président pour l'instant, qui n'arrive pas, donc quand je dis le président, c'est Tchétchène, hein, qui a le soutien de Kadyrov, qui n'arrive pas à s'expliquer comment celui-ci en est arrivé là. Bon, mais pour l'instant, il semblerait ô combien ce soit Dadaïev qui soit donc l'exécutant, que le commanditaire ce soit bien quelqu'un qui soit nettement plus haut placé, donc l'enquête le dira peut-être.
On se souvient que sur le thème religieux, il y avait une certaine surenchère entre différents courants tchétchènes d'ailleurs, qui se sont auto-éliminés sans forcément qu'il y ait la présence de Moscou dans cette épuration entre les différents courants religieux tchétchènes. C'est pour ça que la revendication de l'assassin présumé peut paraître plausible, même si ça nous paraît à nous très lointain. Et puis on rappellera simplement que ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire toujours la vieille question des policiers et des journalistes à qui profite le crime, et à l'évidence... Ça n'est pas Poutine. Alors, même si des gens qui ont pu être proches, non pas de Poutine, mais des services aussi bien en Tchétchénie qu'ailleurs, proches de Moscou, sont pointés du doigt, ça ne veut pas forcément dire qu'effectivement Poutine est derrière, ou alors c'est vraiment et ne plus rien comprendre à sa pratique du pouvoir. Et jusqu'à présent, tout le monde estimait que Poutine était un homme d'État d'une grande intelligence et que donc il ne se laissait pas facilement piéger.
Voilà pour ce sujet, pour aujourd'hui, on va dire. On va peut-être aller voir du côté géostratégie oblige aussi du Nigeria, où, bon, militairement, les forces nigériennes associées aux Tchadiennes et aux Cameroun lancent une offensive contre Boko Haram. Boko Haram qui a encore fait, bien entendu, un attentat là, ces derniers jours. Et puis aussi qui a fait allégeance à l'État islamique. Hein, donc voilà cet État islamique qui maintenant, dans différents continents, apparaît comme une unité et qui crée donc des vocations et des financements, des appels au financement. Le califat s'étend, va-t-il continuer à s'étendre ou va-t-il être contenu ? On a un peu du mal à se représenter les relations qu'il peut y avoir entre ces gens du Nigeria et puis ceux qui combattent en Irak et en Syrie, mais que peut-on en penser, Michel ?
Ce qu'on peut en penser, voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut prendre cette information, donc que Boko Haram fasse allégeance à l'État islamique. Alors, donc déjà, restituer un peu Boko Haram, hein. Qui sévit dans le nord du Nigeria, qui pour beaucoup de musulmans, si j'ose dire fondamentalistes, fait figure aussi de secte, hein, donc de déviants par rapport à la Sunna, donc par rapport aux préceptes du Coran et de son application. Donc cette information est assez surprenante. Ce qu'il faut noter, donc, est-ce que l'État islamique, hein, qui aurait donc son quartier général mondial, donc entre la Syrie et l'Irak, est à même de coordonner, d'aider logistiquement, enfin, j'en doute, hein, mais je sais plus qu'un doute. J'ai l'infime conviction que non, hein, mais est-ce que effectivement des personnes du Golfe qui veulent propager le salafisme, l'intégrisme et ont les moyens financiers de le faire, le font dans le Sahel. Oui, ça on l'a vu déjà, hein, depuis l'éclatement de la Libye, avec l'arrivée du Moujaho de l'ACMI au Mali, entre autres, il y a quelques années, qui sont en capacité de le faire. Une fois de plus, donc ces problèmes, hein, que nous pose à nous l'État islamique et donc ce fondamentalisme-là, il faut jamais perdre de vue que les premiers symptômes, hein, donc avant l'arrivée de cet islamiste, c'est avant tout des problèmes d'ordre sociaux, des problèmes d'ordre ethnique qui n'ont pas été résolus, et quelque part aussi la conséquence, hein, des frontières que nous occidentaux, français et britanniques, surtout sur le continent, avons laissées. On l'a très bien vu avec l'ACMI et Moujaho au Mali, où dans le nord les Touaregs contestent donc l'édification donc de frontières. Et on le voit donc avec les attentats, hein, cette semaine, que ce soit au Nigeria ou que ce soit au Mali, c'est-à-dire que le mal donc est toujours là. Hein. C'est-à-dire on a beau effectivement militairement avoir réduit au Mali la menace islamiste, elle n'en demeure pas là, elle a toujours cette capacité donc de frapper, on l'a dit, mais sous-jacent à tout ça, il y a le problème effectivement non résolu pour ces différents pays qui sont d'ordre de reconnaissance du pouvoir central, que ce soit Abuja en Niger, au Nigeria, ou que ce soit Bamako, deux minorités qui sont loin du centre. Et islamistes ou pas, donc ces problèmes donc sont toujours là, ils seront toujours là, même si on arrive à réduire donc l'islamisme radical.
On peut signaler aussi que dans le cadre des opérations de médiatisation, les islamistes en Irak se sont attaqués cette fin de semaine. Il vaut mieux qu'ils démolissent des vestiges d'histoire que des êtres vivants, mais quand même, cette manière de vouloir détruire 2 ou 3 000 ans d'histoire au prétexte que c'est significatif de choses qui n'existaient pas avant qui existaient avant l'arrivée de l'islam, et que rien ne doit exister avant l'arrivée de l'islam, ça laisse un petit peu pantelant intellectuellement.
Oui, enfin, c'est parmi le fondamentalisme islamiste et wahhabite, hein, dans ces théories énoncées dans la péninsule arabique au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était aussi le fait de ne plus vouer le moindre culte donc à ce qui était pré-islamique, donc païen, et de le détruire. C'était déjà des choses qu'on pouvait observer donc au XVIIIe siècle, hein, donc de ce fondamentalisme-là. Alors là, on peut aussi penser que, par exemple, sur la dernière attaque hein, de la cité parthe d'Arta, c'est aussi une sorte de, si j'ose dire, de vengeance hein, de l'État islamique vis-à-vis des chiites appuyés par les Iraniens, parce que n'oublions pas que la civilisation parthe, hein, donc c'est une civilisation iranophone à la base. Et est-ce que en détruisant donc des monuments classés sur le territoire irakien sous contrôle donc de l'État islamique, mais qui avaient une valeur non négligeable pour la civilisation donc iranienne, donc à savoir pour Téhéran, c'est pas aussi porter un coup indirectement donc aux Iraniens chiites qui sur le terrain secondent hein, donc les milices chiites arabes irakiennes dans leur offensive contre l'État islamique.
Robert ?
Oui, toujours sur les conséquences de cette présence de ce courant islamiste, on annonce à grand renfort de publicité médiatique que l'armée irakienne a entrepris une offensive très forte contre l'Émirat. Et que cette offensive se concentre en ce moment sur Tikrit. Or, Tikrit, c'est le fief. C'était le fief, ça le reste peut-être au niveau du souvenir. Et le fief de Saddam Hussein. Et je crois d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il est inhumé à Tikrit. Et ça paraît surprenant que cette offensive ait choisi ce site. Mais quand on y réfléchit, on peut comprendre la tactique, parce qu'on sait que des éléments assez importants de l'armée de Saddam, après sa chute, de l'armée ou des tribus avaient rejoint, alors ça s'est plus ou moins bien passé, mais avaient rejoint effectivement l'émirat, et que ce faisant, ils renforçaient, notamment les militaires, ils renforçaient par leur connaissance du maniement militaire, et ils renforçaient donc cette offensive à l'époque de l'Émirat, donc il y a 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, est-ce que la tactique des Occidentaux, parce que naturellement derrière cette offensive, il y a la coalition internationale, enfin dite internationale, des Occidentaux. Est-ce que en fait on cherche pas effectivement à couper les forces de l'Émirat en essayant de neutraliser tout ce qu'avait pu apporter effectivement ces éléments issus de l'échec et de la mort de Saddam Hussein et de la dispersion de son armée? On peut se poser la question si c'est par tactique, mais ça ne va pas être forcément évident de s'emparer de Tikrit.
Non, ce sera d'autant moins évident que là, on est confronté, qu'on le veuille ou non, il n'y a plus d'armée irakienne, si j'ose dire, multi-éthique confessionnelle digne de ce nom. Elle est principalement chiite, elle est secondée par des unités kurdes qui sont sunnites, mais qui avant tout se charge de défendre leur précaré et leur zone d'influence, donc à savoir la zone entre Erbil et Mossoul dans le nord. Mais sur l'offensive sur Tikrit, c'est principalement donc l'armée officielle, mais qui est composée exclusivement, quasi exclusivement, donc de Irakiens chiites, secondés donc par des forces iraniennes hein, pour cette offensive là. Et on voit bien donc le danger. Donc cette offensive, par exemple, est très très mal vue donc par les principales monarchies sunnite du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite. Riyad ne veut surtout pas que la composante sunnite soit affaiblie, déjà qu'elle l'est depuis la chute de Saddam Hussein, si nous l'oublions jamais, hein, depuis la création de l'Irak jusqu'à la chute de Saddam Hussein, ça a toujours été les sunnites qui avaient le pouvoir, alors qu'ils étaient à moins de 30% de la population. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, donc, l'Arabie Saoudite ne veut surtout pas voir les chiites se renforcer d'un point de vue géostratégique sur l'Irak. Et voit bien là la main directe de Téhéran dans cette offensive. Alors, et elle craint d'autant plus qu'elle se pose la question de savoir si elle n'est pas un peu le dindon de la farce, à savoir si cette offensive, à grand renfort médiatique, comme tu l'as dit, n'a pas été aussi planifié avec l'accord donc de Washington. Là, on voit effectivement, on a déjà parlé il y a quelques semaines de pourparlers secrets entre Iraniens et États-Unis. Et on le voit bien, il pourrait y avoir une forme de renversement donc des alliances stratégiques pour toute la région. À vrai dire, tout le monde depuis la sortie de nulle part de l'organisation de l'État islamique joue double jeu hein, sur ces questions-là. On sait très bien que l'Arabie Saoudite a financé les islamistes et a aidé donc à l'arrivée de Daesh, mais dans le même temps, aujourd'hui, c'est un peu comme le monstre de Frankenstein. Riyad craint effectivement que ça puisse un jour ou un autre se retourner contre lui, mais dans le même temps, ne trouve pas d'alternative donc pour avoir une influence sur ces sunnites de Syrie et d'Irak pour contrer les influences donc de Téhéran sur la région.
Voilà, autre sujet, peut-être dire un mot de Obama qui a été faire un discours 50 ans après, le 7 mars 65, donc Selma, manifestation pour les droits civiques des Noirs dans l'Alabama, une répression violente, policière, qui a indigné un peu beaucoup de monde aux États-Unis, et il en est sorti quelques droits supplémentaires pour les Noirs, et Obama, donc, s'est permis d'aller sur cet endroit, sur ce pont de Selma, pour faire un discours qui, évidemment, n'est pas passé inaperçu, venant de lui sur la question des droits. Bon, il n'a pas fait d'annonce extraordinaire, il a simplement dit que tout n'était pas réglé, effectivement, puisque le même jour, un jeune Noir était encore tué par un policier dans un autre état. Voilà, on parle un petit peu de la Grèce aussi, avec qui aujourd'hui était sur la sellette européenne, si on peut dire, réunion des ministres de la zone euro, qui examine les réformes proposées par Athènes, avec Yahou Kafis qui fait monter les enchères en menaçant un petit peu les Européens si les choses ne se passent pas correctement pour que les Grecs puissent se redresser un peu, de nouvelles élections législatives, voire d'un référendum visant à sortir la Grèce de l'Europe, ce qui n'est pas pour déplaire à tout le monde, puisqu'un représentant de la CSU en Allemagne a déclaré quant à lui qu'il estimait que c'était une grande chance pour la Grèce de pouvoir sortir de la zone euro. Alors, les Grecs, en 3 mois, vont-ils pouvoir venir à bout de la fraude fiscale et de leur bureaucratie oligarchique? C'est vraiment pas gagné. La question maintenant, c'est donc de savoir si les pays européens auront une tolérance supplémentaire et complémentaire pour l'avenir des Grecs, ou si dans 3 mois, un couperet va tomber qui va effectivement précipiter les choses, quoi.
Oui, en effet, c'est cette déclaration du Premier ministre grec qui a dit qu'il n'était pas collé à leur siège. C'est-à-dire que ce que tu disais, on peut retourner voter ou organiser un référendum. On peut ajouter qu'effectivement, pour les Grecs, comme tu l'as dit, c'est l'essentiel pour eux, c'est tout de suite. tout de suite, c'est-à-dire que ça ne peut pas attendre des mois et des mois, c'est faire face à la crise humanitaire, c'est leur première préoccupation. Et s'ils ne réussissent pas ça, ils savent que ils seraient perdus d'une manière ou d'une autre, et les Européens autour de l'axe franco-allemand auraient gagné la partie. Il y a une aujourd'hui d'ailleurs, je crois que c'est dans l'Humanité, il y a une grande enquête, je pense que un reportage qui a dû paraître également dans d'autres journaux, qui montre combien le gouvernement grec a des difficultés à faire appliquer ses décisions, et notamment l'arrêt de la concession minière accordée à cette entreprise canadienne qui fait des recherches et qui veut produire de l'or et du cuivre. C'est une énorme entreprise qui naturellement déstructure le paysage. Il y a déjà 3000 hectares de forêt qui ont été supprimés. Et le 25 février dernier, le gouvernement grec avait dit stop, on arrête tout, mais les Canadiens n'en font rien, et les Canadiens qui ont corrompu beaucoup de monde dans la région où ils exploitent, en Grèce donc, et qui continuent comme si de rien n'était, ça rappelle effectivement la période de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, où effectivement le droit n'avait aucun poids par rapport à la corruption et à l'engagement des gens qui cherchaient à exploiter et à faire du fric. Donc 25 février, et on s'aperçoit que 3 semaines après, le travail de mise en route, d'agrandissement, c'est même un problème d'agrandissement de cette mine par la société Eldorado Gold, eh bien se poursuit, faisant fi donc des décisions gouvernementales. Ça va être très dur, ce rapport de force qui se mesure, et on sait que dans beaucoup de domaines, avec les multinationales et aussi avec par exemple tout ce qui concerne la flotte, les armateurs, ça va être très 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 dur, cette bataille.
Voilà, d'autres sujets internationaux où on fait notre pause musicale, Michel.
Juste pour finir par l'Ukraine, donc juste dire que le cessez-le-feu tient, on va dire, hein, par quelques coups de feu. Il n'y a plus vraiment de tirs d'armes lourdes qu'on entend dans la région de Donetsk ou de Lugansk. Ça, c'est une première chose. Donc on va dire que c'est plutôt positif, mais ce qu'on voit, c'est depuis les accords de Minsk 2 qui ont été, ne l'oublions pas, donc conclus sous les patronats donc de Merkel et de Hollande, et qui ont abouti donc à ce cessez-le-feu, on voit une offensive tout azimut donc anglo-saxonne de Washington et de Londres qui fournissent officiellement des militaires en vue de former l'armée, ou qui s'apprêtent à fournir des armes non létales dans un premier temps, qui montent des conférences en vue de refinancer donc l'économie, le gouvernement ukrainien qui est aux abois. Hein. On a parlé effectivement de la dévaluation du rouble, mais la hryvnia, la monnaie nationale ukrainienne, part en couille, pour rester poli. Et donc il commence à y avoir quelques mécontentements populaires, surtout en province, plus qu'à Kiev. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voit effectivement, et c'est là où si vraiment les chancelleries allemandes et françaises sont contentes de ce qu'elles ont réussi à aboutir, il faudrait qu'elles fassent aussi entendre leur voix auprès donc de Washington et de Londres pour que ceux-ci ne sabotent pas donc cet accord-là. Or, ce qu'on voit, dans un premier temps, le cessez-le-feu avant tout est respecté parce que l'armée ukrainienne a besoin de se refaire, si j'ose dire, hein, elle qui a perdu bataille sur bataille donc ces dernières semaines. Et on voit que Washington est là donc pour les aider dans ce sens-là. Donc ça augure vraiment malheureusement d'une reprise des combats à plus ou moins brève échéance. En tout cas, il est fort à parier que dès le printemps, les combats reprennent à l'arme lourde et que l'état, donc Kiev ne renonce pas sous pression de Washington, mais on l'a déjà vu, hein, la capacité de la diplomatie américaine sur d'autres dossiers, notamment en Bosnie, donc là où il y avait des compromis qui avaient pu être trouvés, hein, comme en 93, à relancer la machine pour que le conflit perdure. Donc il est de toute évidence que l'intérêt de Washington, c'est faire perdurer ce conflit coûte que coûte. Donc maintenir d'un peu cette épine dans le pied de Poutine. Et peu importe effectivement que les premiers à avoir payé le prix, ce sont la population ukrainienne, qu'elle soit russophone, proche des autonomistes, ou qu'elle soit ukrainophone ou proche de Kiev.
Et on s'aperçoit que sur le plan constitutionnel, rien n'avance. Et effectivement, c'est symptomatique.
C'est symptomatique, c'est-à-dire sur le plan constitutionnel, rien n'avance. On ne sait toujours pas où est le pouvoir, si c'est Poroshenko, le président qui le détient, ou si c'est Yatsenyuk, par exemple. Sur les réformes, absolument rien n'avance. Sur, n'oublions pas, hein, la révolution est née effectivement du Yonamar, de cette oligarchie ukrainienne qui est trop proche de Moscou et qui tient toutes les économies et qui ne permet pas effectivement de nous amener cette prospérité qui aurait dû venir par un marché libre et non faussé, digne de ce nom, que vont nous apporter les Occidentaux. Or, on constate qu'aujourd'hui, les principaux soutiens donc de Poroshenko, lui-même qui est oligarque, ce sont tous ces oligarques, hein, à quelques exceptions près, qui ont été dénoncés sur la place de Maïdan il y a de ça 15-16 mois.
Voilà, je dirais d'un mot que la BCE rachète de la dette, 1000 milliards, 1 trilliard d'euros sur je ne sais plus combien d'années, à hauteur de 60 milliards par mois. Ce n'est pas pour les reverser aux citoyens européens, tranquillisez-vous, c'est juste pour les refiler aux banques. Alors il paraît que une telle manipulation financière devrait déboucher, si tout va bien, tout est là, sur des résultats permettant de dévaluer un peu encore l'euro et donc faciliter les exportations. Et puis, là où je comprends un peu moins, enfin, pas tout à fait, repousser l'inflation à monter à 2%, paraît-il que la déflation nous menace. Quand on pense à tout ce qu'on nous a fait faire pour faire tomber l'inflation, aujourd'hui, ben, il paraît qu'il faut la relancer. Comprenne qui pourra les méandres de l'économisme européen et mondial. Allez, pause musicale avec, on va la faire avec André Bonhomme qui sera les 26, 27 et 28 mars au Carré 30.
Nos grandes douleurs sont muettes, nos joies nous les gardons secrètes, ni vu ni entendu. Ni vu ni entendu, l'essentiel du vécu suit son chemin pourtant au fil du temps perdu, retrouvé, reperdu, du temps perdu, retrouvé, reperdu. On a beau faire, on a beau taire cet effroi devant le mystère qui bien souvent nous mord, qui bien souvent nous mord. L'effigie de la mort escorte nos printemps au fil du temps perdu, retrouvé, reperdu. Du temps perdu, retrouvé, reperdu. On se protège à coups de frime, on se déguise et l'on se grime en mousse, en capitaine, en mousse,
mon capitaine. La magie.
Voilà, vous écoutiez André Bonhomme, vous écoutez également et du même coup Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info du lundi, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission, c'est même le dernier Canu Info du lundi avec cette équipe. Et pour l'occasion aussi, nous recevons Éric Simonet qui sera avec nous à l'antenne dans quelques minutes pour parler de son prochain spectacle. Pour l'heure, nous abordons notre rubrique nationale avec Robert, un regard du côté de la transition énergétique.
Et oui, puisque demain doit se réunir ce qu'on appelle la commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour trouver un compromis, puisque le Sénat a rajouté, ou plutôt encore enlevé, le peu d'acquis qu'il y avait dans cette proposition de loi ce projet de loi. C'est une loi que le gouvernement présente et qui finalement a reculé à 80% sur le nucléaire notamment. Il n'y a plus rien de précis. On ne parle même plus de Fessenheim dans cette loi et demain, d'ailleurs, il y aura un certain nombre de manifestations autour du Parlement, déclarations multiples des Verts, des Fronts de Gauche, et puis des associations Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire, qui sur ce terrain, parce qu'il y a les reculs ne sont pas seulement sur le terrain du nucléaire, mais sont un peu partout dans cette loi, alors qu'il faut rappeler qu'il avait été demandé au départ, notamment par le Front de Gauche, qu'il y a un grand débat national et qu'il se conclut par exemple, un référendum et non pas par un vote à la sauvette du Parlement. Voilà sur ce sujet. Sinon, le dossier social, on a beaucoup parlé aujourd'hui, je crois, du tiers payant. Alors, finalement, on l'aura, mais pas tout de suite, je crois.
Oui et non, quoi. Enfin, pas tout de suite pour tout le monde. Hein. En 1er janvier 2018, généralisé à tous les patients. Pour le moment, c'est pour ceux qui ont des complémentaires santé. 2016, 100%, 2017 pour tous. Enfin bon, ça va se faire par palier. On a essayé, Marisol Touraine a essayé de calmer les médecins en leur garantissant qu'ils seraient payés dans les 7 jours, parce qu'ils ne peuvent pas tenir 8 jours, hein. Après ils meurent de faim, c'est sûr. Ils seraient payés dans les 7 jours, faute de quoi il y aurait des pénalités à leur endroit. On a eu aussi une information un peu alarmiste de Libé qui parlait de 22 000 postes supprimés dans les hôpitaux. Finalement, d'après Marisol Touraine, pas de diminution d'effectifs, et en 2015, 1,5 milliard de plus d'affectés pour les hôpitaux par rapport à 2014.
On va revenir sur Sanofi. On a beaucoup parlé à propos des millions qui tombent dans la poche du nouveau PDG. Sanofi et Sisteron, 600 personnes en grève depuis 5 semaines. Et fin de la grève, la direction qui proposait une ridicule augmentation de 0,5 euros de l'heure, et bien finalement, d'un coup, a cédé à la fin de la semaine. Alors c'est peut-être l'effet bénéfique ou la compensation donnant-donnant du nouveau patron de Sanofi, puisque les salariés vont avoir une augmentation de 80 euros de leur prime de poste. Bon, 80 euros sur un salaire de... Ils ont des gros salaires, hein, enfin des gros. On voudrait bien que tous les salariés partout soient payés comme à Sanofi, mais ils sont pas mal payés. Bon. Et donc, ça, en fait, ça représente que 2 ou 3 ou... peut-être 3% d'augmentation de leur salaire. Bon, toujours est-il que la grève donc est finie, mais qu'en France, il y a deux autres sites, et puis dans le monde, il y a 120 000 personnes qui sont concernées par Sanofi. Alors, on va voir la suite.
Un mot d'Areva, oui, vous avez tous suivi, je pense, le feuilleton. Moi, je voulais revenir sur une info qui est un petit peu en marge. Alors, Areva a fait un déficit fabuleux, il faut absolument l'éponger, il n'y a pas de problème. L'État est actionnaire à 87%, donc c'est le contribuable qui va éponger. On comprend très bien comment les reports de déficit se font de ce côté-là plutôt qu'ailleurs. Bon, les causes, elles sont multiples, hein. Les achats de mines foireuses, la gestion de l'EPR avec des retards de 6 à 10 ans, et ainsi de suite, quoi. Mais je voulais revenir sur un détail qui est un déficit de règlement de cotisation sociale entre 2008 et 2011 de 3,6 millions d'euros. La fraude à l'URSSAF, à l'initiative d'un certain Martin Bouygues, qui est bien vivant, qui est en première ligne avec deux autres sociétés, Altanco, des intérimaires, et Elco, une société roumaine. Bref, il s'agissait de faire travailler 460 ouvriers en les déclarant sous les régimes sociaux de leur pays d'origine et pas celui de la France. Donc, c'est des choses délictueuses. Le tribunal de Cherbourg se réunit pour en parler. Il n'y aura pas un bien grand drame pour les fautifs, puisque la peine maximum est de 225 000 euros. Je vous invite à les rapporter aux 3,6 millions d'euros de cotisations sociales qui n'ont pas été versées. C'est vraiment une broutille.
On peut revenir quelques secondes sur le dénouement, entre guillemets, le mot dénouement. Concernant Sivens et le site de la vallée du Tescou, puisque le conseil général sortant a voté à 43 contre 3, finalement, un barrage redimensionné, alors qui inclut donc l'abandon du projet de barrage actuel, création d'un barrage redimensionné, naturellement, qui ne satisfait personne, surtout pas les zadistes, mais à peine les paysans, mais eux, ils pensent qu'ils ont avec eux la force, donc de toute façon, ils gagneront au bout du compte. Puisque finalement rien n'est clarifié, et les trois opposants, eh bien c'est intéressant parce que les trois qui ont voté contre, eh bien c'est un apparenté de gauche et deux communistes. Alors ils ont expliqué que à juste titre, de ce point de vue-là, ils étaient d'accord avec les écologistes et les opposants, que La nécessité d'un nouveau barrage n'est pas du tout démontrée, et jusqu'à présent tous les rapports d'experts vont dans ce sens-là, et que donc il y avait aucune raison de s'associer simplement à un projet fumeux qui en fait ne serait que le succédané du projet précédent.
Oui, quant aux zadistes, hein, ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre, parce qu'on va vers deux ans de procédure, ils ont le temps d'ici là. Les flics, au bout de quelques temps, ils vont se lasser d'être sur le site, donc on n'a pas fini d'avoir des rebondissements dans cette affaire. Je voulais, puisque tu parlais des communistes, dire un mot de... Hier, c'était le 8 mars, journée des droits de la femme, et rappeler que comment le droit de vote a été acquis pour les femmes, hein, on ne le sait sûrement pas assez. C'est Fernand Grenier, le représentant du PC à Londres, auprès de Gaulle, qui le 23 mars 1944 a fait adopter par l'Assemblée constitutive à Alger le vote des femmes par 51 voix contre 16. Et De Gaulle, bon, tout ça, pourquoi ? Ben, sans doute parce que le rôle des femmes dans la résistance a beaucoup joué dans cette décision. Et De Gaulle, par ordonnance, donc avant même le débarquement, hein, c'est au mois de juin, le 21 avril 1944, a ratifié dans un article 17 ce principe du droit de vote des femmes. Il aura quand même fallu attendre jusqu'à cette date-là en France pour que les femmes, défaut d'être considéré l'égal des hommes sur beaucoup de choses, soit attribué à voter. Et puis le premier vote réel, ça a été en avril 45.
On n'aura pas de train demain et après-demain, je crois, et peut-être plus, hein, parce que la grève peut très bien être reportée, même si simplement c'est la CGT qui appelle à ce mouvement pour protester contre le contenu de la réforme de la SNCF. réforme de la CF d'ailleurs, dont on va parler, puisque la loi a été votée déjà depuis le mois d'août, mais que, effectivement, maintenant, la SNCF convoque un comité central d'entreprise pour voir comment appliquer cette loi. Il y a des discussions entre les syndicats et la direction, mais pour faire pression, donc, à un mouvement de grève. Alors, je ne sais pas s'il va être suivi, s'il va être élargi.
La direction de la SNCF fait savoir que tout va être normal, comme si la CGT n'existait pas, enfin presque, quoi, un train sur 10 dans les TER et tous les TGV. T'en sais plus, Michel, là-dessus ?
Bah, malheureusement, l'appel est pour ce qu'on appelle une grève carrée, donc juste pour demain. Elle prend effet ce soir à 19h. Et
pour la CGT ?
Que pour la CGT. Il n'y a que la CGT qui appelle à partir de ce soir à 19h jusqu'à donc mercredi matin à 8h. Donc en gros, pour la journée de demain. Maintenant, vu qu'on est assujetti à la déclaration individuelle d'attention, donc où on doit par avance un peu s'annoncer gréviste, il est facile donc pour la direction donc de prévoir, de prendre en l'occurrence de cadres qu'elle a formés va vite et à tirer ce qu'on appelle les trains, donc à les mettre sur les trains et à faire en sorte que les trains TGV, hein, principalement, circulent normalement, ce qui devrait malheureusement être le cas demain, mais tout ça au détriment donc des transports régionaux et notamment des TER. Donc le mouvement sera suivi, mais à l'appel uniquement de la CGT. Là, il n'y a pas eu non plus la même approche concernant ce sujet de réforme ferroviaire qui préoccupe tous les cheminots. Mais on va voir dans le temps, effectivement, si on ne va pas trouver une entente syndicale. Hein. Quand je dis entente syndicale, c'est principalement entre Sud, CGT, qui est le grand syndicat au sein de la SNCF, FO, enfin UNSA. Et certainement pas la CFDT qui nous coule maintenant depuis des années et des années et joue dans le sens où veut bien l'emmener la direction.
Voilà, 8 mars encore, Hollande recevait 100 femmes à l'Élysée, peut-être il en cherche une nouvelle. Robert, sur les départementales, tu as un mot à dire ?
On va dire que effectivement maintenant c'est les candidats candidates ça y est ont pris le départ et bon on sait pas trop simplement que la question reste lancinante dans la mesure où aucun texte n'est encore abouti de la part du gouvernement pour savoir quels seront les pouvoirs des futurs conseillers départementaux. Eh bien, c'est un peu ce qu'on disait déjà, c'est un peu une situation digne de Kafka. C'est assez surprenant parce que chez Hollande, il a d'habitude, il aime la précision, il aime les choses quand même assez concrètes. Hein. Il est pour, il est contre, généralement il recule, mais c'est concret. Et là, en l'occurrence, là, visiblement, c'est assez surprenant cette situation.
Ouais. Il y a pas mal de va-et-vient là autour. Hein. Le capitaine Fracasse se fait traiter de crétin par Onfray. Enfin, il y a de la polémique à tout va. Et puis, tout le monde se bagarre. À suivre. Enfin, nous, à Lyon, ici, on ne vote pas, puisqu'on a une métropole. Donc, Colomb est tranquille pendant 9 mois de plus. Bien assis sur ses multiples sièges. Je ne sais pas combien il a de fesses pour remplir tout ça. Mais bon, ça a l'air de lui convenir très bien. On l'a pu entendre s'en féliciter la semaine dernière sur France Q encore.
Il y a un nouveau département, alors maintenant, au nord de Lyon.
Oui, il y a le département du Rhône, c'est le Beaujolais. ils auraient un conseiller général FN, ceux-là, que je ne serais pas étonné.
Eh bien oui, voilà, c'est un cadeau au Front National.
Ouais. Allez, petite pause musicale, puis on se retrouve avec Eric.
Un mot simplement, hein, sans développer. Mmh. On rappelle simplement qu'il y a 4 ans, eh bien, c'était Fukushima, et que partout sur la planète, mais en France... très, très nucléarisé, eh bien, il y aura partout des actions qui vont exister dans les jours qui viennent.
Oui. le soleil dans le brouillard, selon ce qu'on imagine. Il y a des routins qui nous racontent un peu de nos histoires, sans pour autant régler des comptes de façon dérisoire. Il y a des routes qui me font rêver, d'autres qui me font peur, comme un tableau inachevé, un trompe-l'œil ou un leurre. Il y a des routes qui savent transpercer toutes nos illusions et les secrets lourds à porter, chargés de confusion. Il y a des routes vers l'aventure, d'autres vers n'importe où. Une main tendue, une ouverture vers un monde plus doux. Il y a des routes tellement complices qu'on oublie où l'on va, dans ces paysages où se glissent les choses qu'on ne voit pas.
Voilà, donc Éric Simonet avec nous pour terminer ce journal et terminer les 1100, 1200 quelques journaux du Canu Info du lundi. Pour nous annoncer que c'est jeudi, hein, qu'il y a concert.
Voilà, c'est ça. Ben, merci de votre accueil sur la SAT Radio, où j'ai eu l'occasion de se retrouver souvent, ouais, notamment avec Bistan Clac. C'est dans une salle qui s'appelle Agenda, là, que vous connaissez. Et donc, c'est le 12 mars, jeudi 12 mars, à 20h. Donc c'est une salle qui est au 4 de la rue Belfort, pas loin du Gros Caillou, donc tout au début de la rue de Belfort, juste après la rue le croisement avec la rue d'Austerlitz. C'est une salle qui est sympa, parce qu'à la fin il y a un petit manchon. C'est-à-dire que Agendard propose un petit machon pour que les gens, bien souvent, vont prendre un pot après un spectacle pour discuter un peu comme ça, échanger. Et là, on le fait sur place, comme ça, ça permet d'élargir un peu le cercle des gens qu'on connaît, comme ça, c'est convivial, c'est sympa. Et puis on commande à boire sur place, bien sûr. Et puis on passe un moment sympa comme ça dans l'échange. Les tarifs sont assez abordables. C'est 10 euros ou 5 euros, voilà.
Et il y a quand même le chanteur qui chante avec un nouveau récital, avec des compos.
Voilà, on va parler un peu du chanteur parce que je vous parle du lieu. C'est pas que je me débine, mais le chanteur, il a quelques nouvelles chansons. Ouais. Ouais. Il a quelques nouvelles chansons. Et puis, ça va être... là, vous avez passé une chanson Route, là, qui avait été...
Elle n'est pas si vieille, elle est 2013.
Ouais. J'écris moins que qu'André Bonhomme, que vous avez passé tout à l'heure, mais j'écris quand même quelques nouveautés, quoi. Et puis, j'ai l'intention de faire aussi quelque chose d'assez interactif ce soir-là. Donc, vous savez que je fais mes créations et puis que je gagne ma vie en allant chanter dans les résidences des choses un peu du répertoire avec un côté interactif. J'ai envie de faire connaître un peu ça au public qui vient me voir pour qu'il y ait au moins un moment où ça soit complètement interactif. Ce ne sont pas forcément des créations, mais que ça, voilà. Donc, je pense que les gens passeront une bonne soirée et je ne veux pas donner les titres des nouvelles chansons, mais je reprends quelques anciennes aussi. Je fais jamais exactement la même chose, mais
Et pourquoi pas donner les titres des nouvelles chansons pour donner envie de les découvrir?
Non, parce que je sais pas. Y en a une qui s'appelle Deux Frères. Deux Frères, c'est une chanson que j'essaye qu'elle soit un peu, parce que pour qu'une chanson ça soit sympa, il faut qu'il y ait un côté un peu universel, faut pas que ça raconte sa propre histoire, faut que ça soit bon. Mais en même temps là, c'est assez particulier parce que moi j'avais un frère, j'ai perdu assez jeune, mes fils c'est deux frères et mes petits-fils c'est encore deux frères. Donc la chanson, elle s'imposait un petit peu. Et j'essaye dans l'écriture que bon ben on retrouve un petit peu quelque chose, que les gens puissent retrouver quelque chose, quoi. Et puis il y a une chanson qui est assez cocasse, si j'ai le temps là.
Une petite minute.
Voilà, c'est une chanson qui est assez rigolote parce que c'est une chanson qui s'appelle SM. Et c'est pas du tout une chanson sadomasochiste. C'est une chanson simplement, moi je me trouvais dans un magasin de fringues, j'avais une chemise à changer et il y a une petite nana toute mignonne qui me dit, je lui dis, est-ce que vous avez ma taille avec celle dont elle dit non, j'ai plus que du SM. Et toc, donc du coup, eh ben j'en ai fait une chanson de ce truc-là, marrant, et c'est une chanson qui est plutôt fleur bleue.
Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est à découvrir jeudi soir à Gendarme. À quelle heure ?
À 20h.
À 20h. Et pour la modique somme de ?
Pour la modique somme, les gens qui viennent pour la première fois, c'est 10€. Et sinon, ceux qui sont déjà venus dans la saison, c'est 5€. C'est pas le prix en gradin et en salle. Hein. C'est...
Ils diront tous qu'ils sont déjà venus deux fois.
Exactement. Exactement. Et voilà. Je pense qu'on passera une bonne soirée. Merci.
Ce Canu Info se termine. Merci Eric Simonet. Merci à nos auditeurs. Donc c'était le dernier Canu Info du lundi avec cette équipe-là. Après 23 ans et demi de bons et loyaux services pour ma part, une plus de 30 pour Robert et une quinzaine pour Michel.
Le village de nos solitudes, un peu le ciel bleu qui s'efface.
Bonsoir.
Bonsoir. Le cœur qui bat pourtant encore dans les remous du quotidien, qui fait toujours vibrer nos corps, les fuseaux et les méridiens, rêver des rêves différents, parfois sans s'en apercevoir, en croyant devenir plus grand et parfois regarder sans voir. Solidaire aussi responsable, chercher la dune sous le sable, sans voir nos chemins qui s'écartent jouer, sans regarder les cartes.